Le pape Saint Clément dit « Arrêtez votre dispute. » Et donc, pourquoi je vous cite cette lettre? Eh bien, c'est la hiérarchie ecclésiastique existe dès le 1er siècle, non seulement dans les lettres de Saint Paul, les actes des apôtres, mais aussi dans les traces les plus anciennes de l'Église. Alors, ceux qui tout d'un coup disent « il n'y a pas de hiérarchie, il n'y a pas d'évêque, c'est faux », vous voyez, ils sont obligés de remettre en cause des siècles de vie de l'Église. Et ensuite, eh bien, c'est le chaos. Vous donc qui êtes à l'origine des dissensions, soumettez-vous aux prêtres, laissez-vous corriger afin de vous repentir et de ployer les genoux de votre cœur. Apprenez à obéir, laissant là votre arrogance et la trop brillante audace de votre langue. Mieux vaut en effet pour vous être petit, mais compté dans le troupeau du Christ, que d'être estimé très haut et vous voir exclu de l'espérance que nous avons en lui. Donc, voilà un exemple de querelle dans une église, de schisme et donc d'intervention du pape. Alors, à cela, donc, nous devons lire ensuite la conclusion qui est impressionnante. Rendez-vous promptement en paix et joie, hein, soyez joyeux, hein, les messagers, hein, rendez-nous promptement en paix et joie, hein, pas en petits morceaux, les messagers que nous vous avons envoyés, Claudius Ephébus et Valerius Biton avec Fortunatus, afin qu'ils nous annoncent au plus vite la paix et la concorde si désirables et si désirées par nous, et que nous nous réjouissions, nous aussi, au plus tôt, du bon ordre parmi vous. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous, et avec tous les élus que Dieu a appelés en tout lieu par lui, à qui soit l'honneur, la gloire, la puissance et la majesté, le trône éternel, depuis le commencement jusqu'à la fin des siècles. Amen. Et ça, c'est l'autorité pontificale. Alors, l'Église à la fois visible et spirituelle, humaine et, canal de la grâce. Citation. Le Christ, unique médiateur, constitue et soutient continuellement son Église, sainte, communauté de foi, d'espérance et de charité, ici-bas sur terre, comme un tout visible par lequel il répand à l'intention de tous la vérité et la grâce. Numéro 771 du CEC, Catéchisme de l'Église catholique de 92. L'Église est à la fois société dotée d'organes hiérarchiques et corps mystique du Christ, assemblée visible et communauté spirituelle, Église terrestre et Église parée de dons célestes. Église, c'est une assemblée appelée. Donc tous ceux qui disent « Ah mais non, l'Église c'est Jésus et on est tous des bitniks, on a tous droit, on va tous, participer, on va tous célébrer la messe, on va tous commenter les Saintes Écritures, on a tous la même autorité. Oui. » Eh bien non. Oui. Eh bien non. Ces dimensions constituent ensemble une seule réalité complexe, faite d'un double élément humain et divin. Il appartient en propre à l'Église d'être à la fois humaine et divine, visible et riche de réalité invisible, fervent dans l'action et occupé à la contemplation, présente dans le monde et pourtant étrangère au monde, mais de telle sorte qu'en elle, ce qui est humain est ordonné et soumis au divin. Vous avez des papes, hein, qui avaient une vie privée déplorable, et qui, la providence divine a empêché que l'Église catholique disparaisse dans sa hiérarchie historique et humaine. Ce qui est visible à l'invisible, ce qui relève de l'action à la contemplation, ce qui est présent à la cité future que nous recherchons. Tout ça, c'est important parce que, voyez-vous, quand des personnes désespèrent. Vous voyez, actuellement, le clergé reconnaît que dans les années 70, il y a eu un vent de folie, hein, où on célébrait la messe dans une table sur une table de cuisine avec une baguette et un litre de vin. Eh bien, on a survécu à ça. L'Église, mystère de l'union des hommes avec Dieu. C'est dans l'Église, numéro 772, que le Christ accomplit et révèle son propre mystère comme le but du dessein de Dieu. Récapitulé tout en lui. Saint Paul appelle grand mystère l'union sponsale du Christ et de l'Église. Le mariage, le Christ et l'Église. Parce qu'elle est unie au Christ comme à son époux, l'Église devient elle-même à son tour un mystère. Contemplant en elle le mystère, saint Paul s'écrit « Le Christ en vous, l'espérance de la gloire ». Dans l'Église, cette communion des hommes avec Dieu, par la charité qui ne passe jamais, est la fin qui commande tout ce qui en elle est moyen sacramentel lié à ce monde qui passe. C'est-à-dire, parce que moyen sacramentel, tout ça c'était des mots, l'Église, sacrement, c'était très très spirituel, très éthéré, mais sa structure est complètement ordonnée à la sainteté des membres du Christ, et la sainteté s'apprécie en fonction du grand mystère dans lequel l'épouse répond par le don de l'amour au don de l'époux. Marie nous précède tous dans la sainteté qui est le mystère de l'Église, comme l'épouse sans tache ni ride. C'est pourquoi la dimension mariale de l'Église précède sa dimension pétrinienne. Ça, c'est très fort. Hein. Ça veut dire que l'Église est signe de l'Église, voyez, avant Saint-Pierre qui est vicaire du Christ. Mais dans l'union des âmes au Christ, c'est la Vierge Marie qui est plus symbolique que celui qui va succéder au Christ dans l'autorité. C'est joli. Marie, à Marie se trouve le symbole de l'unité de l'Église aussi. Alors ensuite, il y a de grandes considérations sur ce qui a fait discussion sur le mystère de l'Église. Je ne suis pas là pour vous en parler. Et là, on vous distingue le sacerdoce des baptismales et le sacerdoce ministériel. Qu'est-ce que ça veut dire ? C'est-à-dire que, en tant que nous sommes baptisés, nous venons membres du corps du Christ, et le Christ est prêtre, prophète et roi. Donc nous sommes tous, d'une manière générale, prêtres, prophètes et rois. Nous sommes tous prêtres parce que nous sommes un pont entre le ciel et la terre, par notre prière. Mais nous ne sommes pas prêtres au sens ministre. Et sinon, on est tous prêtres. Voilà. Donc, c'est une expression qu'on doit prendre au sens large. Prêtre, prophète, c'est-à-dire que par nos actes, par la sainteté de nos vies, et même par des charismes éventuels de prophétie, d'annonce de l'avenir, nous sommes prophètes. On annonce au monde la vérité. Et roi, nous avons un pouvoir de gouvernement, de direction vers le bien des âmes faibles. Vous voyez, les éducateurs sont les rois de les enfants. Et vous avez dans des communautés des personnes qui sont sages. Mais normalement, on ordonne prêtre quelqu'un qui est sage, éprouvé. C'est dommage de voir qu'un prêtre, jeune ou pas jeune, voyez, soit plein de tellement de défauts que... Voyez, enfin. Alors... Je passe les belles considérations sur le Christ et tête de l'Église parce que Ce sont des considérations vraiment très spirituelles, alors que moi, je veux vous donner un sens plus ici, plus précis par rapport à la hiérarchie d'Église. Du coup, nous allons au numéro 811. L'Église est une sainte catholique et apostolique. C'est là l'unique Église du Christ dont nous professons dans le symbole qu'elle est une sainte catholique et apostolique. Ces quatre attributs, inséparablement liés entre eux, indiquent des traits essentiels de l'Église et de sa mission. L'Église ne les tient pas d'elle-même, c'est le Christ qui, par l'Esprit Saint, donne à son Église d'être une sainte catholique et apostolique. Ah. Seule la foi peut reconnaître que l'Église tient ses propriétés de sa source divine. Mais leurs manifestations historiques sont des signes qui parlent aussi clairement à la raison humaine. L'Église rappelle le premier concile du Vatican, Vatican Ier, en raison de sa sainteté. Il y a beaucoup de saints dans l'Église catholique, plus que chez les autres chrétiens, et plus que chez les musulmans, et plus que chez les bouddhistes, chez les hindous, et c'est un fait. De son unité catholique, actuellement, malgré les schismes et les hérésies, il y a quand même encore 1 milliard de personnes, 1 milliard 200 millions, je ne sais plus, qui sont catholiques, parmi les 2 milliards de chrétiens. De sa constance invaincue, c'est-à-dire c'est la même foi et les martyrs, est en elle-même un grand et perpétuel motif de crédibilité, nous pousse à croire. Et une preuve irréfragable de sa mission divine. L'Église est une, le mystère sacré de l'unité de l'Église. L'Église est une de par sa source. Dans ce mystère, le modèle suprême est le principe, et dans la Trinité des personnes, l'unité d'un seul Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit. L'Église est une de par son fondateur, car le Fils incarné en personne a réconcilié tous les hommes avec lui par sa croix, rétablissant l'unité de tous en un seul peuple et en un seul corps. L'Église est une de par son âme, l'Esprit Saint qui habite dans les croyants, et remplit et régit toute l'Église, réalise cette admirable communion des fidèles, et les unit tous si intimement dans le Christ, qu'il est le principe de l'unité de l'Église. Dès l'origine, numéro 814, cette Église une se présente cependant avec une grande diversité qui provient à la fois de la variété des dons de Dieu et de la multiplicité des personnes qui les reçoivent. Dans l'unité du peuple de Dieu se rassemblent les diversités des peuples et des cultures. Les Romains et les Égyptiens n'avaient pas la même manière de prier le Christ, mais ils priaient le Christ. Entre les membres de l'Église existe une diversité de dons, de charges, de conditions et de modes de vie. Au sein de la communion de l'Église, il existe légitimement des églises particulières, jouissant de leurs traditions propres. Les Romains priaient en grec et en latin, et les Arméniens priaient en arménien. La grande richesse de cette diversité ne s'oppose pas à l'unité de l'Église. Cependant, le péché et le poids de ses conséquences menacent sans cesse le don de l'unité. Quels sont ces liens de l'unité? Par-dessus tout, c'est la charité qui est le lien de la perfection. Mais l'unité de l'Église, l'Église pérégrinante, c'est l'Église militante, est assurée aussi par des liens visibles de communion, de points. C'est des critères objectifs, La profession d'une seule foi reçue des apôtres. Donc, on ne peut pas être chrétien si on nie la divinité du Christ, par exemple. La célébration commune du culte divin, surtout des sacrements. Donc, s'il nous manque un des 7 sacrements, on n'est pas catholique. Voilà. La succession apostolique par le sacrement de l'ordre. Aïe, aïe, aïe. Maintenant la concorde fraternelle de la famille de Dieu. Donc ça veut dire les apôtres, les évêques, les prêtres en ligne directe. Moi j'ai été ordonné prêtre et je peux remonter à l'un des 12 apôtres. Je suis en ligne directe avec les apôtres et le Christ. Ça fait la légitimité du sacerdoce. C'est impressionnant. Et vous avez, pour certains épiscopats, on peut remonter à l'un des apôtres. Les documents sont présents. L'unique église du Christ est celle que notre Sauveur, après sa résurrection, remit à Pierre pour qu'il en soit le pasteur, qui lui confia à lui et aux autres apôtres pour la répandre et la diriger. Cette église, comme société constituée et organisée dans le monde, est réalisée dans l'église catholique, gouvernée par le successeur de Pierre et les évêques qui sont en communion avec lui. Je ne commente pas le subsistit in. Voilà. Eh bien, c'est clair, c'est net, et ça doit être pris suivant l'interprétation habituelle. Les blessures de l'unité, eh bien, ce sont l'hérésie, l'apostasie et le schisme. Voilà. L'Église est sainte. Que veut dire catholique? Le mot catholique signifie universel en grec, dans le sens de selon la totalité et selon l'intégralité. L'Église est catholique dans un double sens. Elle est catholique parce qu'elle est, qu'en elle, le Christ est présent. Là où est le Christ, Jésus, là est l'Église catholique. Saint Ignace d'Antioche, deuxième siècle. En elle subsiste la plénitude du corps du Christ uni à sa tête, ce qui implique qu'elle reçoive de lui la plénitude des moyens de salut. Confession de foi droite et complète, vie sacramentelle intégrale et ministère ordonné dans la succession apostolique. Toujours les trois critères. La même confession de foi, les mêmes sacrements et des prêtres, des évêques et des prêtres descendants des apôtres. L'Église était, en ce sens fondamental, catholique au jour de la Pentecôte. Elle le sera toujours jusqu'au jour de la parousie, à la fin des temps. Elle est catholique parce qu'elle est envoyée en mission par le Christ à l'université du genre humain. Assez impressionnant. Alors, il y a de très longues considérations ensuite. L'Église et les non-chrétiens. Est-ce qu'on fait partie de l'Église lorsqu'on n'est pas baptisé? Quant à ceux qui n'ont pas encore reçu l'Évangile sous des formes diverses, eux aussi sont ordonnés à appartenir à l'Église. Mais ils n'y sont pas encore. Sauf baptême de désir et ignorance invincible dans leur, comme le petit aztèque dans les années 800. Voyez. Mais s'il est honnête et si c'est la loi de sa conscience, il appartient à l'âme de l'Église catholique. Le rapport de l'Église avec le peuple juif. L'Église, peuple de Dieu dans la Nouvelle Alliance, découvre, en scrutant son propre mystère, son lien avec le peuple juif, à qui Dieu a parlé le premier. À la différence des autres religions non chrétiennes, la foi juive est déjà réponse à la révélation de Dieu dans l'Ancienne Alliance. C'est au peuple juif qu'appartient l'adoption filiale, la gloire, les alliances, la législation, le culte, les promesses et les patriarches, lui de qui est né, selon la chair, le Christ. Saint Paul aux Romains, chapitre 9, versets 4 à 5. Car les dons et l'appel de Dieu sont sans repentance, Saint Paul, épître aux Romains, chapitre 11, verset 29. Par ailleurs, lorsque l'on considère l'avenir, le peuple de Dieu de l'Alliance, de l'Ancienne Alliance et le nouveau peuple de Dieu tendent vers des buts analogues, l'attente de la venue ou du retour du Messie, mais l'attente est d'un côté du retour du Messie, mort et ressuscité, reconnu comme Seigneur et Fils de Dieu, de l'autre, de la venue du Messie, dont les traits restent voilés, à la fin des temps, attente accompagnée du drame de l'ignorance et de la méconnaissance du Christ Jésus. Ouh là là, c'est possible de dire ça encore? Ah oui, mais enfin, c'est vrai. Donc à Notre-Dame de Paris, vous avez l'église avec un calice et une couronne, et la synagogue, sa couronne qui tombe, et un bandeau sur les yeux. Un bandeau en forme de serpent. Parce que Satan essaye d'empêcher les juifs de se sauver. Mais les juifs de bonne volonté, comme les païens de bonne volonté, peuvent se sauver, comme dit saint Paul dans l'Épître aux Romains, chapitre 1. Les relations de l'Église avec les musulmans. Le dessein de salut enveloppe également ceux qui reconnaissent le Créateur, l'existence de Dieu. En tout premier lieu, les musulmans qui professent la foi d'Abraham, adorent avec nous le Dieu unique, miséricordieux, juge des hommes au dernier jour. Voilà ce que nous avons en commun avec les musulmans. L'existence de Dieu, qui a parlé à Abraham, qui pardonne les péchés, et qui jugera les hommes à la fin des temps. Mais le problème, c'est qu'ils ne croient pas que cette miséricorde soit par le sacrifice de la croix, puisque pour eux, le prophète Jésus n'est pas mort sur la croix, mais a été substitué par un ange, et qu'il reviendra à la fin des temps uniquement pour proclamer un jugement, mais qu'il n'est pas le premier-né d'entre les morts, et qu'il n'est pas le Fils de Dieu. Donc voyez-vous, ils sont dans les brumes. Le lien de l'Église avec les religions non chrétiennes, les hindous, les bouddhistes, est d'abord celui de l'origine et de la fin commune du genre humain. Ça, on a dit ça, on a dit ça. En effet, tous les peuples forment une seule communauté, ils ont une seule origine, puisque Dieu a fait habiter toute la race humaine sur la face de la terre. Enfin, il y en a qui croient qu'on est des vers de terre ou des plantes. Bon. Ils ont aussi une seule fin dernière, Dieu. Alors là, on force, si vous voulez, ceux qui sont, panthéistes, à croire que Dieu est personnel. Et, ben, il y en a qui résistent. Dont la providence, les témoignages de bonté et les desseins de salut s'étendent à tous, jusqu'à ce que les élus soient réunis dans la cité sainte. L'Église reconnaît dans les autres religions la recherche, encore dans les ombres et sous des images, du Dieu inconnu, mais proche, puisque c'est lui qui donne à tous vie, souffle et toute chose, et puisqu'il veut que tous les hommes soient sauvés. Ainsi, l'Église considère que tout ce qui peut se trouver de bon et de vrai dans les religions est comme une préparation évangélique et comme un don de celui qui illumine tout homme pour que, finalement, il ait la vie. Et c'est bien extraordinaire de voir en effet, en Asie, un très grand respect des parents et nous, de ne plus avoir de respect de nos parents. En cela, eux suivent le quatrième commandement. Par exemple. Mais dans leur comportement religieux, les hommes montrent aussi des limites et des erreurs qui défigurent en eux l'image de Dieu. Bien souvent, trompés par le malin, ils se sont égarés dans leur raisonnement. Ils ont changé la vérité de Dieu contre le mensonge, en servant la créature de préférence au Créateur, ou bien vivant et mourant sans Dieu en ce monde, ils sont exposés à l'extrême désespoir. Bon. Comme dit Jacques Attali, la liberté suprême, c'est le suicide. Pour l'instant, il n'est pas dans la lumière. Voilà. Hors de l'Église, point de salut. Ah. Comment faut-il entendre cette affirmation souvent répétée par les pères de l'Église? Dans le catéchisme de l'Église catholique, ils n'ont pas peur d'en parler. Formulée de façon positive, elle signifie que tout salut vient du Christ tête par l'Église qui est son corps. Appuyée sur la Sainte Écriture, numéro 846, et sur la tradition, le Concile enseigne que cette Église en marche sur la terre est nécessaire au salut. Seul en effet le Christ est médiateur et voie de salut. Or, il nous devient présent en son corps, qui est l'Église. Et en nous, enseignant expressément la nécessité de la foi et du baptême, c'est la nécessité de l'Église elle-même dans laquelle les hommes entrent par la porte du baptême, qu'il nous est confirmé en même temps. C'est pourquoi ceux qui refuseraient soit d'entrer dans l'Église catholique, soit d'y persévérer, alors qu'il la saurait fondée de Dieu par Jésus-Christ comme nécessaire, cela ne pourrait être sauvé. C'est-à-dire que ceux qui savent que Jésus est le Sauveur et que l'Église donne les moyens du salut, et qui s'y opposent malicieusement, ne peuvent pas être sauvés. C'est pas moi qui le dis. Cette affirmation ne vise pas ceux qui, sans qu'il y aille de leur faute, c'est une vieille expression française, c'est mignon, sans qu'ils y aillent de leur faute, ignorent le Christ et son Église. En effet, ceux qui, sans faute de leur part, négligence, mépris, ignorent l'Évangile du Christ et son Église, par exemple, je ne sais pas, un Esquimau en l'an 38. Oui. Les apôtres n'ont pas pu monter jusqu'au pôle Nord, mais cherchent pourtant Dieu d'un cœur sincère et s'efforcent sous l'influence de sa grâce, parce que Dieu donne des grâces à tous les êtres humains, même aux assassins, pour qu'ils se convertissent, d'agir de façon à accomplir sa volonté telle que leur conscience la leur révèle et la leur dicte, ceux-là peuvent arriver au salut éternel. Il faut suivre la loi de sa conscience, c'est-à-dire ce qu'on sait vrai, non pas de sa fantaisie. Parce que de nos jours, le mot conscience est plutôt ce que je veux maintenant. C'est pas ça la conscience. C'est un jugement droit dans notre intelligence, la conscience. Ainsi donc, voyez-vous, ici, nous avons dans le catéchisme de l'Église catholique cette affirmation très nette. Et pour terminer, parce que ce soir, nous ne terminerons pas trop tard. Ici, explication du catéchisme à l'usage des diocèses de France, de Monseigneur Audelan, évêque de Blois, et du chanoine Duplessis du chapitre de Notre-Dame de Paris. 1939, Paris, édition École et Collège. Pour les classes de scolarité prolongée et les classes de 6e, 5e, 4e et 3e, 2e édition. Page 108, l'Église. Avant de retourner au ciel, Jésus-Christ a voulu fonder une société destinée à transmettre aux hommes, dans toute la suite des siècles, la doctrine et les moyens de salut qu'il était venu leur apporter. Cette société s'appelle l'Église, c'est d'elle qu'il est question maintenant. Dans le « Je crois en Dieu », le symbole des apôtres. Symbole, ça veut dire résumé. À cause de son importance, ce sujet comportera, réparti sur 4 leçons, les 5 articles suivants. Les pasteurs de l'Église, la hiérarchie, l'infaillibilité de l'Église, les marques de la véritable Église, les membres de l'Église, enfin l'union intime des membres de l'Église. Les pasteurs de l'Église. L'Église est une société et la société des fidèles, instituée par Jésus-Christ, est gouvernée par le pape et par les évêques sous l'autorité du pape. Je répète, qu'est-ce que l'Église ? L'Église est la société des fidèles, instituée par Jésus-Christ, est gouvernée par le pape et par les évêques sous l'autorité du pape, par le successeur de Pierre. Si vous ne connaissiez pas la définition de l'Église, maintenant vous l'avez. Le mot « Église » signifie « assemblée, appelée, convoquée » ou « société ». Jésus a voulu que ses disciples, c'est-à-dire les chrétiens, au lieu de vivre isolés, furent groupés en société, ayant à leur tête des chefs ou pasteurs qui les représenteraient et exerceraient son autorité, qui leur représenteraient et exerceraient son autorité. Quand Jésus dit « Je suis le bon pasteur », mais maintenant, pendant des siècles, vous allez être dans l'anarchie la plus totale et vous allez plus savoir ce que j'ai dit. Plus personne ne va parler, plus personne ne va vous donner de direction. Vous allez être comme des moutons libres qui partent dans tous les sens. Alors là, les apôtres, ils sont là, ils font « Bon, pourquoi vous dites que vous êtes un bon pasteur ?»« Eh bien, parce que je suis complètement lunatique. » Voilà. Eh bien non. Quand le Christ dit « Je suis le bon pasteur », il institue des pasteurs, c'est logique. Et il met en garde contre ceux qui se déguiseront et seront des loups, rapaces, qui dispersent le troupeau. Le véritable chef, caput, la tête de l'Église est notre Seigneur, dans les paroles citées plus loin. Il dit « Mon Église ». Mais il a voulu être représenté par un chef visible et il désigna à cet effet Saint-Pierre, que les apôtres devaient aider dans le gouvernement de l'Église. Cette société, Jésus a voulu qu'elle durât jusqu'à la fin du monde, sous la conduite de pasteurs qui seraient le pape et les évêques. Le pape serait le successeur de Saint-Pierre, les évêques les successeurs des apôtres. Il nous faut donc étudier ce qui concerne en premier lieu le pape, en second lieu les évêques et leurs auxiliaires, pour avoir une notion exacte de ce qui concerne les pasteurs de l'Église.